Bonjour, ici Pierre, le fondateur de Toutac. Toutes les semaines, je reçois une personnalité. La cheminée est allumée, on est sur une péniche, au bord de la Seine, et c'est une discussion à bâton rompu autour d'un moment qui a changé leur vie ou le cours des choses. Mon podcast, il s'appelle Déclic. C'est une seule prise, zéro montage, zéro coupe. Un déclic dans notre vie, on s'en souvient. Il prend de la valeur avec le temps parce qu'il est porteur d'enseignement et comme une Madeleine de Proust, à certains moments, il revient. Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors, dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Il est 17h49 aujourd'hui, en face les arbres sont de plus en plus marrons, c'est l'automne et nous sommes face à la cheminée, en bordure de Seine, toujours. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit donc Déclic, ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil, à côté de moi, nous accueillons Bénédicte de Pertuis. Bonjour Bénédicte.
Bonjour Pierre.
Merci d'avoir accepté cette discussion. Tu as un parcours pas banal que je vais tenter de résumer, mais très vite. Et puis, je vais te céder la parole pour que tu parles très vite de déclic. Alors, je retiens que tu adores les études. Et de fait, tu feras tour à tour Hippocagne, Sciences Po, avec une spécialité en droit des affaires. Et puis, tu t'attaqueras à l'expertise comptable. Et tu aurais pu continuer ce parcours en entrant à la sortie de tes études dans une grande société de trading financier, si je me souviens bien. Tu passes un entretien. La personne qui te reçoit te demande quand tu es libre, tu réponds maintenant et l'après-midi tu commençais. C'est ça ?
C'est exactement ça.
Sauf que, 4 jours plus tard, tu t'en vas, constatant que ce métier n'était pas fait pour toi.
Exactement.
Alors, les chiffres, tu aimes malgré tout cela, et donc vont suivre 10 années que tu qualifies de passionnantes chez Ernst & Young, où tu vas travailler sur de multiples dossiers de PME. La première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier ?
Alors, avant tout, je crois que ce que j'ai aimé en choisissant de rentrer dans un cabinet anglo-saxon de conseil et d'audit, c'est de ça permettait de ne pas se spécialiser. Cette expérience rapide dans une société de trader m'avait juste fait comprendre que quand on choisit un métier, on risque de devenir vite très spécialisé et d'y passer toute sa vie. Et je crois que ce que j'ai choisi en rentrant dans un cabinet, c'était surtout de ne pas se spécialiser, de s'enrichir au contact d'expériences multiples, d'entreprises, d'histoires, de création de projets, de rencontres humaines. Et ça permettait de passer d'un domaine à l'autre le plus souvent possible. Et puis ça permettait aussi, et ça je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, même si au départ c'était pas très conscient, ça permettait de comprendre. Et les chiffres, c'est une voie d'accès finalement à une histoire, à un projet, et c'est une voie d'entrée finalement pour comprendre l'histoire d'une société depuis sa création, ses projets de développement, son financement, etc. Et je crois que c'est ça en fait que j'ai
aimé. Que tu as aimé, voilà. Pendant ces 10 ans.
Pendant 10 ans. J'ai pas été déçu.
Et tu as pas été déçu. Et pour autant, un jour il se produit un déclic, et plutôt que d'essayer de le raconter, je pense que ça serait mieux que tu nous expliques ce qui s'est passé.
Alors effectivement, ça faisait 10 ans que j'étais dans ce cabinet, j'y ai passé 10 années assez heureuses et épanouies, mais il se trouve que plus on avance dans la hiérarchie, dans ce type de métier, comme dans beaucoup d'autres d'ailleurs je pense, plus on s'écarte du métier de terrain, qui était celui que j'aimais en fait, ou celui où on était au contact des gens, des hommes, des projets, etc., pour entrer dans une phase un peu plus à la fois commerciale et puis de gestion de personnes. Et puis moi, ce qui me plaisait, c'était d'être sur le terrain. Et donc j'ai compris au bout de 10 ans que je resterais pas toute ma vie dans ce cabinet. J'y avais fait une belle carrière, j'y avais eu 5 enfants, donc 5 congés maternité, et c'était pour moi l'occasion de changer un peu de perspective. Je m'étais dit que je ne souhaitais pas être associée dans ce cabinet.
Tu te posais un tout petit peu des questions.
Voilà, je me posais des questions. Ouais. Donc j'ai fait un bilan de compétences même, parce que je voulais réfléchir, prendre le temps, etc. J'ai tiré un trait sur cette vie en me disant je vais aller jusqu'au bout, je vais même passer le diplôme d'expertise comptable qui est long, j'avais pas eu le temps de faire mon mémoire, etc. Donc c'était une démarche voulu et raisonné, raisonnable aussi sûrement, parce que voilà. Et puis j'avais quelques idées en tête, mais absolument pas la voie que finalement qui est arrivée par un déclic assez banale finalement, puisqu'un jour je regardais la télévision, ce qui m'arrive pas si souvent que ça, avec mon mari, et je vois une émission. À l'époque, c'était le, je crois, le début des affaires financières. Il y avait l'affaire Elf, il y avait ces dossiers-là dont on parlait un petit peu. Ça me passionnait pas outre mesure, mais ce jour-là, je tombe sur une émission et c'était Eva Joly qui racontait son métier, son
La juge
parcours,
Eva Jolie,
la
donc.
juge d'instruction Eva Joly.
D'accord.
Et elle parlait de son métier, de juge d'instruction, etc. Et je découvrais quelque chose. Je dois dire que j'avais dû manquer de curiosité parce que j'avais fait quand même des études de droit en même temps que Sciences Po, mais jamais j'avais imaginé être magistrat, ni même avocat d'ailleurs. Et jamais je m'étais posé la question de ce que faisait en réalité un juge d'instruction. Et quand elle a parlé de son métier, ça m'est apparu complètement passionnant. Et je me suis dit, mais c'est idiot, j'ai jamais pensé à être magistrat, mais je pense que j'aurais adoré ce métier. Ce que j'ai dit à mon mari, et
Tu le dis
puis
à voix haute, en
je le
fait.
dis à voix haute, voilà.
Ouais.
Et je le dis à mon mari, mais pour moi, c'était même pas, la question se posait pas, on ne devenait pas magistrat à 37 ans, voilà, quoi, c'était, voilà. Et puis, il se trouve que quelques jours après, mais je crois vraiment que c'est le lendemain, mon mari revient de son bureau avec un journal, je me souviens, c'était Le Parisien, qui parlait d'une femme qui était médecin et qui avait passé l'année d'avant un concours exceptionnel pour devenir magistrat, parce que la magistrature cherchait à s'ouvrir sur la société et recruter des gens. Voilà. Et donc pour moi c'était évident, c'était un signe. Et on disait dans cet article d'ailleurs que ce concours exceptionnel était reconduit cette année et qu'il s'ouvrait dans quelques mois, etc. Donc c'était un signe et du jour au lendemain, ça me paraît comme une évidence, arrêté tout ce que j'étais en train de faire et j'ai commencé à préparer ce concours passionnément pour devenir magistrat.
C'est quand même un changement radical. Et qu'est-ce que tu fais? Tu en parles autour de toi? À qui tu en parles? Comment ça se passe?
Alors c'est vrai que ça commence à remonter maintenant parce que c'était il y a plus de 20 ans cette histoire, mais j'en parle d'abord à mon mari, évidemment, qui est tout à fait d'accord. En fait, ouais, maintenant que j'y réfléchis, quand je suis partie d'Ernst & Young, un de mes projets, c'était de passer l'ENA, parce que je pensais aussi chercher du sens, un peu plus de sens au métier que j'exerçais. Et donc, il y avait soit le domaine associatif, soit l'ENA, etc. Donc, je pense que finalement, l'ENM, ça a croisé ce désir de trouver un nouveau sens, et peut-être un sens au service d'un intérêt plus général que celui des chefs d'entreprise que je conseillais auparavant. Et donc j'en parle à des gens qui avaient passé, j'en avais parlé à des gens qui avaient passé l'ENA, etc., qui m'ont dit, oh là là, tu vas être très déçu. Et l'ENEM, je ne connaissais personne qui avait fait cette école, en fait. Je ne connaissais pas de magistrat, je ne connaissais
L'école de la
personne,
magistrature.
l'école de la magistrature.
Ouais.
Donc en fait,
Et
j'en
là, il faut que
parle.
tu passes un concours, en fait.
Il faut passer un concours, ouais.
D'accord.
Et puis j'avais pas très bien compris, parce que j'avais vu cette histoire de cette femme qui était médecin, qui avait passé ce concours, donc je me suis dit, bon, ça ne doit pas être trop compliqué. Moi, j'ai fait un peu de droit, je vais y arriver, etc. Et puis après, j'ai compris que cette femme, en fait, elle avait repris à zéro des études de droit pendant 4 ans avant de passer le concours.
Ce qui n'était pas tout à fait la même
Ce qui n'était
histoire.
pas tout à fait la même histoire. Après, j'ai vu qu'il y avait 3 500 personnes qui étaient inscrites au concours pour 100 postes. Donc, je me suis dit, c'est quand même quelque chose d'un peu sérieux. Mais je me suis lancée là-dedans. Après, j'ai des amis avocats qui m'ont dit, mais t'es idiote, t'aurais dû demander à être intégrée sur dossier, etc. Mais je me suis dit, c'est pas grave, je passe ce concours, c'est amusant. Et en fait, j'ai retrouvé beaucoup de plaisir et j'ai un peu découvert le droit à cette occasion-là, parce que malgré les 4 ans de droit que j'avais fait à la fac, je crois que j'avais pas perçu toute la subtilité du droit, et puis j'avais pas l'expérience pour
Et pas le recul,
apprécier, pas le
peut-être non plus.
recul, voilà. Et donc d'abord j'ai adoré ces quelques mois c'était pas du bachotage, mais quand même un petit peu. Et je me suis lancée sans très bien savoir ce que je faisais en réalité. C'était ça qui était aussi assez amusant, en
Et est-ce
fait.
que ta vision du monde commence à bouger à partir du moment où tu décides de faire ça? C'est-à-dire que, tu vois, tu es dans un
Ouais, je
métier, tu
vois.
avances, est-ce que déjà ça bouge quelque chose?
J'ai pas ce souvenir-là. J'ai le souvenir que tout d'un coup, tout a été tendu dans ce but-là. C'est-à-dire que c'était devenu essentiel que j'aie ce concours et que je devienne magistrat. Ce qui est complètement idiot, hein, parce que j'avais une vie très épanouie. J'avais 5 enfants tout petits. Voilà, et c'était pas du tout.
Et comment tu t'es organisé, enfin pragmatiquement, passer un concours avec 5 enfants tout petits, un mari qui est occupé aussi
Ah ben là, tout repose sur le mari, là. La nounou et le mari. Non, c'est vrai que j'ai un mari qui a été complètement partant dans l'histoire. Je me souviens, on devait partir faire du ski, et puis je m'étais inscrite dans une prépa par correspondance pour préparer le concours. Et la prépa nous m'a écrit en disant, bah, finalement, devant la demande, on va organiser 15 jours de préparation physique à Paris, et ça tombait pendant les vacances au ski. Donc j'ai commencé par me dire, bah, je ne peux pas y aller. Et puis mon mari m'a dit, mais évidemment, si tu y vas, je pars tout seul avec les enfants faire du ski. Et puis si tu n'y vas pas, tous ceux qui vont aller, c'est un concours, donc
tu vas te faire gagner tes chances.
Voilà, exactement. Donc voilà, ça repose beaucoup sur le mari et puis l'organisation qu'on a pu mettre en place à ce moment-là. Et sur mes enfin ma mère, mes beaux-parents, enfin voilà, toute la famille s'y y a mis sa patte.
Et est-ce que dans ta tête, tu as eu un processus pour prendre ta décision? C'est-à-dire qu'est-ce que tu as pris un tableur Excel, comme tu faisais beaucoup de... Et tu as mis les plus et les moins? Ou c'est juste quelque chose qui a été instinctif et tu y as été?
Ah ouais, ça a été mais complètement instinctif. Il n'y a pas eu une once de réflexion. Ça a été... C'est évident, j'ai vu Eva Jolie, j'ai eu envie de faire ce qu'elle faisait. C'est possible de le faire, je saute sur l'occasion et j'y vais, quoi.
Et depuis, tu as rencontré Eva Jolie?
Non.
Elle ne sait pas qu'elle a changé ton destin.
En fait, je l'ai croisée à plusieurs occasions, mais ça n'a jamais été le moment de manifester à elle et de lui dire qu'elle avait changé mon destin. Et je suis un peu désolée parce que l'autre jour, je crois que je l'ai croisée à une manifestation de magistrats. Et j'ai pas réalisé tout de suite que c'était elle. Et je pense que voilà, si je la voyais maintenant,
tu lui dirais.
Bah bien sûr, ouais, bien sûr. Mais à chaque fois que je l'ai vue, c'était pas le moment, quoi.
Et est-ce que tu revois encore la télé, ce qu'elle te dit, c'est quoi qui t'a séduit? Parce que quand même, ça se passe en quelques minutes.
En quelques minutes, ouais.
Qu'est-ce qui t'a séduit?
Alors, je me souviens pas très bien. Et d'ailleurs, en pensant à cette audition aujourd'hui, je me suis dit que j'aimerais bien regarder finalement, et ça m'a jamais pris depuis tant d'années, revoir cette émission de télévision. Et j'essaie de la situer dans le temps, et je crois que je la situe à peu près. Mais je me souviens plus très bien du fond, mais je me souviens qu'elle parlait de la façon dont elle travaillait, et que c'était un espèce de chemin pour comprendre ce qui s'était passé, pour dénouer les fils des flux financiers, des responsabilités des uns et des autres, etc.
Et ce qui te parlait quand même.
Ce qui me parlait, sur le fond, qui me parlait. Ouais. Et moi, j'aime bien la démarche de comprendre, quel que soit le sujet dans lequel on est. C'est toujours intéressant d'essayer de dénouer, de comprendre exactement ce qui s'est passé avec une démarche assez analytique. Et puis, j'ai aimé le personnage aussi. C'est vrai que j'ai aimé ce qu'elle racontait de ce qu'elle était, de comment elle était arrivée là. Et puis du contexte dans lequel ces affaires devenaient un peu plus sur le devant de la scène aussi. Il y avait quelque chose d'un peu dans l'air du temps en début d'année 2000 pour les affaires financières.
Alors, tu réussis le concours.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe après?
Alors là, après, je dois dire, c'est là où je m'aperçois que ma démarche n'était pas du tout réfléchie, parce que moi, je vivais à Paris, j'avais des enfants, un mari qui était chef d'entreprise, donc avait aucune mobilité géographique. Et j'avais juste oublié un détail, c'est qu'en devenant magistrat, on entre dans la fonction publique. Alors, il y a quelque chose qui n'est pas un détail, ce qui est que d'abord, mon salaire était divisé par 3. Il se trouvait que ça, je crois que je l'avais anticipé et que c'était pas, on avait fait le choix, que c'était pas vraiment un problème, on pouvait l'assumer. Mais surtout, en fait, ce que j'avais pas du tout envisagé, c'est qu'on devient, on rentre dans la fonction publique. Et que c'est pas parce qu'on habite à Paris et qu'on est plutôt spécialisé en matière financière qu'on va tout de suite devenir juge à Paris au pôle financier.
Alors qu'est-ce que tu deviens ?
Alors je choisis un poste en fait sur une liste de postes en fonction de mon rang de sortie et il n'y avait pas un seul poste à Paris. Moi je voulais être juge du siège et pas au parquet, donc je prends le premier poste que je peux prendre géographiquement, c'est-à-dire un poste de juge aux affaires familiales au Havre. Voilà.
D'accord, tout à côté.
Tout à côté. Ouais. Le Havre, en plus, c'est vraiment des trains qui vont pas très très vite. Je crois que c'est toujours le cas. C'est pas si loin que ça, mais on met 2 heures en train pour y aller. Donc, c'est une nouvelle vie qui commence, puisque tous les matins, je crois que c'est à 6h15.
Tu prends ton train ?
Je prends mon train pour aller au Havre. Et tous les soirs, je reprends mon train, si je peux, pour rentrer du Havre. Parce que quelquefois je peux pas parce que j'ai une audience correctionnelle qui se termine un peu trop tard, donc je peux pas trop prévoir. Parfois je dois dormir à l'hôtel au Havre au dernier moment, mais assez rarement parce que j'avais pas du tout envie d'avoir un deuxième lieu de vie hors de ma famille. Donc voilà, je travaille dans le train et je découvre, moi qui ai toujours aimé la mer, et ben je découvre aussi une autre vie en fait, c'est-à-dire que tous les jours je vais travailler au bord de la mer.
Mais du coup, on a sauté quand même une étape. Tu as été à l'école de la magistrature.
Ouais.
Donc tu as repris des études.
Oui.
Et tu te souviens du jour où tu rentres à l'école de magistrature? On va revenir au Havre après, mais je trouve que quand même, tu te remets à faire des études
bien
après
sûr.
10 ans,
Qu'est-ce qui se passe?
Alors, en fait, les études, elles sont déjà avant. C'est quand je me souviens surtout de quand j'ai préparé le concours, parce que là, je me suis inscrite à cette prépa là, et on a d'abord, on doit travailler. Alors que dans la vie professionnelle, je travaillais que sur ordinateur, comme tout le monde en fait. Et quand on rentre à l'école et à la prépa, on doit apprendre à rédiger des dissertations avec un stylo, non plus jeter ses idées et ensuite trier, mais composer à l'avance un plan, etc. Et là, je me souviens des premières notes que j'ai eues en prépa qui sont un 3 sur 20.
Pour une bonne élève, c'était pas bien.
Alors, je n'étais pas forcément une excellente élève, mais c'est vrai que ça vexe un petit peu. On se dit, mais je ne sais plus rien faire, en fait, en matière de... voilà. Et puis, ça revient assez vite, donc ça, c'est assez rassurant. On retrouve un peu ses réflexes, et puis voilà. Et du coup, quand on va à l'école, bon, ça, c'est surtout pour le concours. Et là, c'est vrai qu'on est un peu perdu au début, puis on retrouve ses réflexes et puis ses capacités de réflexion sur des sujets qui sont plus théoriques que ceux qu'on a l'habitude de traiter et tout ça. Et quand on va à l'école, alors là, c'est très différent, parce que la formation... je sais que c'est un peu un sujet d'actualité, mais la formation à l'École nationale de la magistrature, elle est... Enfin, moi, je l'ai trouvée exceptionnelle. C'est-à-dire que c'était d'une qualité... Pourtant, voilà, j'avais été à Sciences Po, dans de bonnes facs de droit, etc. Jamais je n'ai vu un concentré d'intelligence et de pragmatisme pareil. C'est-à-dire que la formation, c'est une formation de 6 mois pour les gens qui ont déjà un parcours professionnel ouais. Et qui ont déjà des études de droit derrière eux, bien sûr, hein, c'était obligatoire pour passer le concours. Et sur ces 6 mois, il y a 1 mois à l'école, 1 mois de formation théorique à l'école et 5 mois de formation pratique sur le premier poste qu'on va occuper. Donc moi, comme je savais à ce moment-là que j'allais être juge aux affaires familiales au Havre, par exemple, j'ai eu 5 mois en stage.
Tu le savais déjà?
Oui, au moment où on rentre à l'école, on sait déjà, on a déjà choisi son poste. Voilà. Donc là, on sait déjà qu'on va être juge aux affaires familiales et qu'on va avoir 5 mois de stage avec des juges aux affaires familiales. Avec un peu le reste, mais pas beaucoup. Et 1 mois à l'école, c'est très bien fait parce que c'est un concentré dans chaque matière du professeur le plus, je trouve, le plus spécialisé et le plus pédagogique. Voilà. Donc en fait, on est pas tellement évalué sur c'est plus du tout scolaire en fait. Et c'est un, je sais pas,
Et là tu te dis que tu t'es pas trompé.
Et là je me dis que je me suis pas trompé. J'ai vu des gens, je me souviens très bien de la première intervention à l'École de la magistrature. C'était Jean-Louis Nadal qui a ensuite été président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, mais qui était à l'époque procureur général, je crois, près de la Cour de cassation, qui est venu parler de la déontologie des magistrats. Ils ont trouvé que c'était la façon d'aborder, la meilleure façon de nous aborder en rentrant dans ce métier. Je pense que c'était pas idiot. Et puis après, ça a été beaucoup plus, quelqu'un qui vient vous parler de la procédure civile, pour moi, ça voulait rien dire du tout. C'était quelque chose de...
Mais ça a dû te frapper, parce que avant d'accepter de cette discussion, t'as été plutôt réticente, je peux le dire.
Je peux le dire.
Et tout simplement par déontologie. Par réserve. Et d'ailleurs, par rapport à tous les gens que je reçois, tu es la seule à qui j'ai dit, si je dois couper quelque chose, eh ben je le ferai.
Ouais. C'est un, de la réserve, et puis c'est 2, les fonctions que j'occupe aussi. Ouais. Voilà, aujourd'hui, c'est compliqué.
On va y venir,
quand on est juge d'instruction, il y a le secret de l'instruction, et puis il y a le fait qu'on essaye d'être le plus en retrait possible. Enfin, sauf si on a quelque chose à défendre, comme le faisait sans doute Eva Joly à l'époque, mais...
Mais je t'ai rassuré en te disant que c'était pas ça le sujet.
Voilà, puisque ce n'est pas le sujet, il n'y a aucun problème pour parler de mon parcours.
Et donc on retourne au Havre, et qu'est-ce que tu retiens? T'étais chez Ernst & Young.
Ouais.
Tu voyais des chefs d'entreprise.
Oui.
D'accord. Là, tu es au Havre, et tu vois des enfants, des histoires. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, et comment tu vis ce moment?
Alors ça, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment un saut dans le pas complètement dans l'inconnu, parce que d'abord il y a les 5 mois de stage que j'ai fait à Paris.
Ouais.
Donc dans la fonction, c'est pas complètement un saut dans l'inconnu. C'est d'abord, je crois, une grande il y a vraiment beaucoup de doutes déjà. Le jour où on enfile sa robe pour la première fois et on se dit je suis juge, on se demande si on n'est pas un peu un imposteur. Il faut d'abord moi, j'ai eu peur de ne pas être légitime à être juge d'affaires familiales, en me disant, mais j'ai une formation très, très, très rapide, je ne suis pas vraiment un juge, ils vont le voir tout de suite, c'est un peu ça. Voilà. Et puis après, très vite, on est confronté. En fait, être juge d'affaires familiales et être juge tout court, j'aime beaucoup cette phrase d'un haut magistrat, Pierre Drey, je crois, qui disait, juger, c'est savoir ou aimer écouter, essayer de comprendre et vouloir décider. Et en fait, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et surtout pour les affaires familiales, on rencontre des gens, on les écoute, on essaye de comprendre, et puis dans l'intérêt de l'enfant en général, parce que c'est le fil conducteur et il est fixé par le code civil en fait, on prend une décision pour des gens qui ne sont pas en état de la prendre tout seul, parce qu'il y a des tas de gens qui les prennent tout seuls pour...
Mais est-ce qu'à ce moment-là, je t'ai déjà posé la question, est-ce que ta vision du monde commence à changer?
Ah oui, oui.
Et qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui se transforme?
Il y a beaucoup de choses qui se transforment. En étant d'abord au Havre avec des gens, il y a quelque chose de tout bête, mais à Paris, quand on est juste affaires familiales à Paris, comme j'avais pu l'être en stage, il y a beaucoup de people, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de gens qui se disputent, qui s'arrachent, qui se détruisent pour des questions d'argent, qui sont prêts, on peut voir des choses horribles, qui sont prêts à manipuler les enfants, à instrumentaliser les enfants pour régler leurs problèmes de couple, etc. Et j'étais très frappée par la forme d'intelligence humaine. Des gens plus simples, parce que c'est vrai qu'au Havre, les gens sont beaucoup plus simples. Je découvre aussi le revenu, parce que quand on est juste affaires familiales, on rentre beaucoup dans les questions matérielles, financières, etc. Et c'est une région...
C'est l'histoire de pension.
Bien sûr, l'histoire de pension, de droits de visite, etc. Et il y avait beaucoup de gens pour qui la vie sur le plan matériel était très compliquée. C'est-à-dire que quand il y en avait un qui travaillait, c'était bien. Quand on faisait le décompte de ce qui restait aux gens pour vivre une fois qu'ils avaient payé leur loyer, c'était parfois très impressionnant. Et c'est des gens qui toujours se... il y a évidemment, faut pas caricaturer non plus, mais qui la plupart du temps se débrouillaient pour toujours raisonner dans l'intérêt de l'enfant, essayer de... Parfois, ils n'avaient pas de voiture, ils habitaient loin, c'était beaucoup plus compliqué qu'à Paris finalement, mais ils trouvaient toujours des solutions pour que l'enfant, que le père exerce son droit de visite chez une sœur, une belle-sœur, une belle-mère, etc. Et j'étais très frappée en fait par cette... cette espèce d'humanité, de simplicité beaucoup plus bienveillante finalement.
Et que ça a changé quand tu rentres à Paris, tous les soirs, la manière dont, je sais pas, dont tu as élevé tes enfants, dont tu as...
Ouais, alors élever, je sais pas, élever mes enfants, je sais pas, mais c'est vrai que tout simplement la manière dont je sais pas, quand je faisais mon chariot de course à Carrefour, je pouvais pas m'empêcher de me dire mais en fait ça
c'est le revenu mensuel,
c'est le revenu mensuel d'une famille de quatre enfants. Bon après ça change pas forcément grand-chose pour autant, mais voilà, dans sa vie personnelle, bah on fait moins d'histoires, je pense, en couple. Parce qu'on voit toute la journée des histoires épouvantables de gens qui se déchirent, etc. Donc, on mesure aussi la chance qu'on a souvent. Et dans la façon dont on élève ses enfants, bah forcément, plus ou moins consciemment, ça change.
Et qu'est-ce que tu as aimé ? Est-ce qu'il y a des choses de ce métier-là ? Tu dis, ouais, c'est vraiment... Je reviens au moment d'Eva Jolie, quoi. Est-ce qu'il y a des moments dans ton métier à ce moment-là de magistrat aux affaires familiales, pardon. Il y a des choses que tu aimes particulièrement, et puis il y a d'autres où tu te dis, t'aimes pas trop.
En fait, j'ai tout aimé, parce qu'en fait, l'idée, c'est que on écoute les gens. Parfois, on est content quand ils vous disent qu'ils sortent de votre bureau en disant qu'ils sont contents parce qu'ils ont pu parler, alors qu'en fait, entre eux, ils n'arrivaient plus à se parler. Et bon, on n'est pas psy quand on est juge, mais on est quand même un peu là pour... C'est le grand principe du...
Tu peux m'expliquer, parce que je n'ai jamais été dans un bureau d'un juge d'instruction. C'est dans une salle, les gens sont assis, ils se parlent.
Comment alors, un juge aux affaires familiales, par exemple, comme au Havre, c'est celui qui va donc s'occuper des divorces, mais aussi pour les gens qui ne sont pas mariés, de l'histoire de garde d'enfants, de droits de visite, de pension alimentaire, etc. Et ça se passe concrètement dans un bureau d'un juge, effectivement. Il y a les deux...
Donc c'est très proche, quoi.
C'est assez proche. Alors, il y a des avocats qui, parfois... mettre un peu de distance dans tout ça, et parfois il faut mettre un peu de distance, mais c'est aussi un endroit où les gens vont se retrouver. Souvent ils se sont pas parlé depuis longtemps et ils se retrouvent autour de l'organisation de la vie future, un peu la leur, mais surtout celle de leurs enfants en général. Donc c'est un moment important quand même. Donc quel que soit le sujet dont on est saisi, c'est important d'essayer de chercher avec eux une solution, de leur montrer qu'ils sont entendus, parce qu'ils sont dans un moment de fragilité, de souffrance. Et moi, je pensais pas du tout un jour exercer ce métier-là. C'était pas du tout. Mais en fait, j'ai trouvé ça très intéressant et puis très enrichissant en fait, parce qu'on apprend des tas de choses sur la façon dont les gens vivent, même sur le Havre. Moi, je connaissais pas des tas de métiers, les types qui sont des capitaines qui vont juste conduire les bateaux pour les rentrer dans les ports,
les pilotes,
les histoires des dockers, les histoires de... Moi, j'adore découvrir toutes ces histoires, c'est super intéressant.
Et pour autant, tu arrêtes de faire l'aller-retour au Havre un jour?
Oui, parce que ça, c'est un petit peu fatigant quand même.
Et donc, aujourd'hui, tu es où et donc, quel est ton métier?
Voilà, donc assez rapidement en fait. Hein. Le HAF, ça n'a duré que 2 ans, et après ouais. j'ai exercé plusieurs métiers. En fait, la magistrature, c'est plein de métiers différents. Ça n'a rien à voir entre être juge d'affaires familiales, juge des enfants, juge d'instruction, président de cour d'assises. Enfin, il y a plein de métiers différents. Et donc moi, j'en ai exercé quelques-uns, mais pas tant que ça. Et assez rapidement, je me suis retrouvée à Paris. Dans une chambre des affaires financières, qui jugeait les affaires financières. Après, je l'ai présidé pendant plusieurs années, jusqu'à il y a 2 ans.
Quand tu présides, ça veut dire que c'est au moment du procès.
Du jugement, voilà.
Au moment du procès.
Voilà, exactement. Donc ça, c'était la chambre qui jugeait les affaires financières.
Je me rends compte combien on connaît peu les choses.
Ça, c'est vrai.
C'est pour ça que je te demande de préciser, parce que comme je ne comprends pas, je pense que d'autres personnes ne comprendront pas.
Oui, c'est vrai. Et moi, j'étais un peu pareil, je dois dire, avant d'exercer ce métier. En fait, il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'instruction, où on prépare le dossier pour qu'il soit en état d'être jugé, par exemple, devant la cour d'assises, quand c'est un crime. Ou devant un tribunal correctionnel quand c'est un délit. Et après, il y a la phase de jugement. Et après, il y a plein d'autres fonctions, mais la phase de jugement, c'est en général 3 juges devant un tribunal correctionnel, un président et 2 assesseurs, qui vont juger une affaire qui est prête à être jugée. Voilà. Et donc ça, j'ai présidé cette chambre-là pendant plusieurs années avec les affaires qui venaient du parquet national financier ou du parquet de Paris, mais des affaires financières. Et puis depuis 2 ans, je suis juge d'instruction au pôle financier de Paris. Voilà.
Et donc là, tu renoues un peu avec... ton histoire de Ernst & Young, puisque t'es vraiment dans les chiffres.
Oui. Oh, mais en fait, les affaires financières que je jugeais, j'étais déjà beaucoup dans les chiffres.
Beaucoup dans les chiffres.
En fait, ça fait longtemps maintenant que je suis dans les chiffres.
Ouais.
Soit à la phase de jugement, soit à la phase d'instruction. Mais c'est vrai que là, je suis à l'instruction, je suis, effectivement, dans la succession. Enfin, dans la succession, il n'y a pas de succession, mais c'est le même métier qu'exerçait Eva Joly, à l'époque. Voilà.
Et dans... Ce matin, je recevais une autre personne qui est Laurent Berger. On a parlé de rapport de force. Et est-ce que dans ton métier aujourd'hui, il y a les avocats, il y a la personne que tu reçois qui peut être ou pas inculpée, enfin en tout cas que tu examines, il y a toi-même, il y a un jeu qui s'exerce entre vous.
Oh oui, oh oui. La justice est pleine de
et puis,
codes.
Il peut y avoir les médias aussi.
Bien sûr. Oui, et puis la justice est vraiment pleine de traditions, de codes, et puis parce qu'il faut qu'il y en ait, aussi parce que peut-être qu'il y en a qui ont plus tellement leur raison d'être, mais en tout cas, c'est très codé tout ça. Quand on va dans une salle d'audience, je vous invite tous à y aller, parce que c'est quelque chose de très intéressant. On s'aperçoit qu'il y a un véritable... alors un jeu, pas forcément, mais en tout cas il y a une vraie théâtralité dans une salle d'audience. Et il y a un rapport de force avec les avocats qui est au départ... En tout cas, moi, les premières fois où j'ai présidé des dossiers un peu médiatiques, parfois on arrive dans une salle, c'est bondé d'avocats, d'anciens ministres. Enfin, les prévenus sont des anciens ministres ou en tout cas des personnes connues, intelligentes. En général, c'est tous des hommes. Le tribunal est composé de femmes. Vous êtes 3. Ils ont chacun 5 avocats ou 10 avocats.
Ça met la pression.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de pression, mais en tout cas, oui, c'est un peu intimidant au départ.
C'est intimidant, pardon.
C'est un peu intimidant au départ. Et après, la seule réponse qu'on peut avoir face à ça, c'est la compétence, en fait. Faut essayer de connaître le dossier, faut essayer d'écouter les uns et les autres, de ne pas se laisser intimider non plus. Donc, c'est compliqué. Parfois, on a peur d'être un peu intimidé par les uns ou par les autres. Bon, en fait... on apprend assez vite.
Avec le métier, tu
apprends. Oui, on apprend assez vite à ne pas l'être. Et puis, il faut rester. En fait, on n'est pas non plus... On ne fait pas n'importe quoi, finalement. On est quand même toujours guidé par un dossier. Quand on préside une audience, il y a une seule question qui nous intéresse. C'est à la fin, je vais devoir décider, est-ce que cette personne est coupable de ces faits-là pour lesquels il est renvoyé devant le tribunal? Et s'il est coupable, quelle peine est-ce que je vais prononcer? Donc, on a quand même un guide. On n'est pas jeté dans la nature. Mais c'est vrai, bien sûr, il y a des rapports... très très particulier qui s'instaure et avec les prévenus et avec les avocats et avec le parquet et chacun a son rôle et doit
et
rester
et avec la police aussi.
Alors
là tu n'as pas de police ou
alors à l'audience non, il n'y a plus
à
la police
mais avant...
maintenant quand je suis juge d'instruction oui, maintenant il y a des services d'enquête,
des services d'enquête
il y a des policiers, des services de police ou de gendarmerie, des services très spécialisés en matière financière avec qui il faut aussi avec qui on travaille parce qu'on leur délègue finalement toute une partie des investigations. Donc on a beaucoup de rapports avec le travail du juge d'instruction, c'est effectivement beaucoup de rapports aussi avec les services d'enquête en France, et puis avec nos homologues dans d'autres pays, puisqu'il y a beaucoup d'investigations qui se font en coopération internationale. Donc il y a aussi essayer de trouver des interlocuteurs à l'étranger, et puis de leur donner envie de coopérer, parce que sinon on ne fait pas grand-chose dans les dossiers.
Seul on ne fait pas. C'est un travail. C'est un travail de coopération permanent.
Alors, on peut toujours essayer, mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, quoi. C'est vrai qu'on a toujours besoin des autres. Je crois que c'est la grande règle.
Et de tous les métiers que tu as exercés, donc, parce qu'il y a plusieurs métiers, si j'ai bien compris, après avoir quitté ton métier d'audit au sens large, finalement, quel est celui qui te laisse les meilleurs moments, si je peux... Est-ce que, ou tu n'en as pas, parce que tu aimes tout ce que tu as fait?
J'aime pratiquement tout ce que j'ai fait, je crois. Mais c'est vrai que c'est compliqué de dire les meilleurs moments, en fait, parce que tout correspond...
On ne peut pas dire ça. On n'a pas le droit de dire que c'est un bon moment dans ton métier.
Ah, si, parce qu'en fait, bon, je ne sais pas si c'est bon, c'est pas... On ne peut pas relier ça, effectivement, à un plaisir. Il n'y a pas un plaisir à juger les gens ou un plaisir... Mais il y a une... D'abord, il y a souvent une grande satisfaction intellectuelle parce que justement, dans ce jeu avec les avocats, etc., eh ben, on est souvent confronté à des gens qui ont des arguments très très intéressants, très bien présentés. Il y a quand même sur le plan intellectuel des discussions intéressantes. On peut voir aussi évoluer la législation, on peut voir la jurisprudence. Enfin, il y a toujours c'est intéressant. Le fond est intéressant. Et puis, il se passe toujours quelque chose à l'audience pendant un interrogatoire. Alors parfois. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, bien sûr, mais il y a beaucoup de moments intéressants.
Donc, ce déclic de voir la juge Eva Joly qui a changé ta vie, tu te dis que tu ne regrettes pas du tout.
Non, pas du tout. Non, je ne le regrette pas. Jamais.
Bah, écoute, je voulais te poser une dernière question qui est si tu voulais voir quelqu'un assis à ta place pour pouvoir l'écouter. Un autre moment dans des clics, tu penserais à qui? Qui c'est que tu me recommanderais?
Bah, je pense que ça tombe un peu sous le sens finalement. Je crois que c'est Eva Joly.
C'est Eva Joly. Ça va peut-être être pas simple pour moi de la voir. En tout cas, merci beaucoup Bénédicte d'avoir passé ce moment-là.
C'est un plaisir.
Bonne continuation.
Voilà, cet épisode de Déclic produit par Toutac Pro est terminé. Si vous en êtes là et que vous l'avez aimé, laissez des commentaires et une notation sur votre plateforme d'écoute préférée ou laissez-moi un commentaire sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt.